Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce dimanche 17 octobre. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, au cours de cette émission, le journal, les sports, rencontre avec le nouveau directeur de l'Alliance française de Brisbane et notre rubrique du dimanche, le personnage de la semaine. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce dimanche, le verrouillage de Melbourne se terminera 5 jours plus tôt que prévu avec une série de changements dans la feuille de route de réouverture du Victoria. Le dirigeant de la Nouvelle-Galles du Sud revient sur la décision de la suppression de la quarantaine pour les arrivées internationales à la demande du Premier ministre Scott Morrison. Le lockdown de 10 semaines de Melbourne se terminera jeudi prochain à 23h59 lorsque le Victoria devrait atteindre son objectif de vaccination à double dose de 70%. L'État a enregistré 1838 nouveaux cas locaux de COVID-19 et 7 décès ce dimanche, avec 65% des personnes âgées de 16 ans et plus désormais entièrement vaccinées. Le gouvernement de l'État a également apporté quelques modifications à la feuille de route de réouverture de l'État, notamment en supprimant la limite de voyage pour Melbourne seulement et en autorisant jusqu'à 10 visiteurs par jour à la maison. Et le chef du Victoria, Daniel Andrews, a annoncé un retour à l'école pour tous les élèves une semaine plus tôt que prévu, soit le 22 octobre prochain.
I can't tell you how proud I am of our state, the resilience, the courage, the compassion and the conviction that Victorians have shown to get this job done is quite amazing. Not only am I proud, but I'm deeply grateful. But I would just say this, there's still a little way to go. We've got to get that 70 number to 80.
Le couvre-feu controversé dans le Victoria sera également supprimé et les rassemblements en plein air jusqu'à 15 personnes seront autorisés avec un nouvel assouplissement dans les régions rurales du Victoria. Le gouvernement a déclaré que bien que l'État ait plus de cas qu'il ne le souhaiterait, le taux d'hospitalisation et la gravité de la maladie sont inférieurs à ce que l'on craignait. Le directeur de la santé du Victoria, Brett Sutton, a déclaré que le taux d'augmentation de vaccination a été aussi rapide que dans n'importe quel autre endroit du monde.
It's really been an extraordinary story. We've had huge uptick in our vaccination. We've gone from 0 to 35% coverage in over 150 days and the 35% to the 70% mark is going to happen in much, much less than that. It's really extraordinary how we're shooting up the global rankings in terms of our vaccination coverage.
Et le port du masque reste obligatoire dans le Victoria. Le dirigeant de la Nouvelle-Galles du Sud, Dominique Perrottet, est revenu sur sa décision de mettre fin à la quarantaine dans des hôtels pour les arrivées internationales entièrement vaccinées et d'accueillir toutes les arrivées de l'étranger. Le Premier ministre, Scott Morrison, a renversé ses décisions et a déclaré que le gouvernement fédéral s'en tiendrait à son projet d'ouvrir d'abord la frontière aux citoyens et aux résidents permanents du pays. Interrogé sur ses conversations avec le Premier ministre, Dominique Perrottet a déclaré que tout avait été constructif avec le gouvernement fédéral.
I've had numerous conversations with the Prime Minister, numerous conversations in relation to moving to this point, and the federal government is supportive. Now, obviously, it's a matter for them in terms of how they stage it, but we certainly want to move it, and we want to move fast because if we can open up safely in this way, we'll get the New South Wales economy back on top. And why is that important? Because it provides opportunity and prosperity for everyone across New South Wales.
Il y a eu 301 cas de COVID-19 en Nouvelle-Galles du Sud ce dimanche, un jour après avoir atteint l'objectif de vaccination à double dose de 80%. Cela signifie que le gouvernement de l'État assouplit davantage les restrictions de COVID. À partir de demain, lundi, 20 visiteurs seront autorisés à l'intérieur d'une maison et jusqu'à 50 personnes pourront se rassembler à l'extérieur à partir de demain. Les masques ne devront plus non plus être portés dans les bureaux. Les sports communautaires pourront reprendre et les discothèques pourront rouvrir. Le ministre fédéral des Finances, Simon Birmingham, a nié que le Parti national est en train de dicter la politique climatique du pays. Les députés nationaux se réunissent aujourd'hui pour discuter du plan du Premier ministre Scott Morrison de s'engager à zéro émission nette d'ici 2050 avant le sommet crucial des Nations Unies sur le climat à Glasgow. Certains membres du Parti national n'ont pas encore accepté un engagement net zéro. Le libéral Simon Birmingham a déclaré sur Sky News que le gouvernement travaillait sur des préoccupations légitimes pour formuler sa politique climatique.
The government is deciding the government's climate change policy. The government comprises all of our members, Liberal members, National Party members, LNP, CLP, etc. So we bring together people right across the country to be able to effectively consider all of the implications and issues. There's no point pretending that there aren't some parts of the Australian community who are concerned about the implications of these decisions.
La sénatrice du Parti travailliste, Katie Gallagher, a déclaré sur l'ABC que le Premier ministre devrait commencer à s'imposer, à imposer son leadership sur la question du climat.
This past week has sort of been just like such an eye-opener. We've had the Prime Minister, you know, after doing nothing for 8 years, now trying to wrangle the National Party into telling him what he's allowed to say when he goes to Glasgow. That's the state of where we're at the moment. And we need the Prime Minister to take charge and make sure that when he goes to Glasgow, he's actually representing Australia in a very positive way about the action that needs to happen on climate change.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson et le leader travailliste Keir Starmer ont visité l'église où un député britannique a été mortellement poignardé. Les deux hommes ont déposé des fleurs à l'extérieur de l'église méthodiste de Belfairs, puis sont restés un moment dans le silence avant de repartir. Le politicien conservateur David Amos a été poignardé à mort lors d'une réunion avec des électeurs à Leighton-on-Sea, à l'est de Londres, dans ce que la police a décrit comme une attaque terroriste avec des liens avec l'extrémisme islamique. Les dirigeants musulmans locaux ont également condamné le meurtre. Le ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel, a déclaré que de plus grandes mesures de sécurité et de protection pour les députés étaient envisagées.
Now, clearly there is a live police investigation taking place right now. There are obviously discussions around MP security too. And when we think of David, David himself, man of the people, he was killed doing a job that he loved, serving his own constituents as an elected democratic member. And of course, acts of this are absolutely wrong, and we cannot let that get in the way of our functioning democracy.
Dans moins de 2 mois, le 12 décembre, un troisième référendum en Nouvelle-Calédonie sur l'avenir du pays. Les indépendantistes veulent un report du vote à cause de la crise Covid, mais les loyalistes veulent maintenir la date du 12 décembre. Précision de Julien Chavanne pour RFI.
Le taux d'incidence du Covid sera le juge de paix. Aujourd'hui, il frôle les 300 cas pour 100 000 habitants. La limite de 100 cas serait l'objectif pour la tenue du scrutin. Mais pour le camp du oui à l'indépendance, la campagne est déjà mort-née. Daniel Goa est le président de l'Union calédonienne, la principale force indépendantiste.
Ben aujourd'hui, avec les choses qui nous sont tombées dessus, eh bien, nous demandons à ce que ça soit reporté comme on avait demandé au départ en 2022.
Autrement dit, un référendum après la présidentielle. Une mauvaise idée pour le député Philippe Gomez, partisan de la Nouvelle-Calédonie française.
La Nouvelle-Calédonie, enjeu de politique intérieure de manière générale, ça se termine mal. Et puis la deuxième chose, c'est qu'une année de plus, c'est une année de tensions locales supplémentaires, d'atonie économique. Donc non, si l'épidémie est contrôlée, il faut qu'on tienne le référendum à la date qui est prévue.
Entre la menace d'un boycott brandi par les indépendantistes et la pression des loyalistes pour tourner la page du référendum au plus vite, Sébastien Lecornu joue la prudence. Le ministre des Outre-mer ne s'est donné aucune date limite pour fixer le sort du scrutin, à la recherche, selon son entourage, d'un trou de souris pour maintenir le 12 décembre.
Et puis la Nouvelle-Calédonie se reconfine pour quelques jours à cause du Covid. Les précisions de Serge Massot pour RFI.
La Nouvelle-Calédonie se reconfine pour le week-end. Le Caillou a enregistré 5 nouveaux décès liés au Covid-19. Écoutez l'intervention du président du gouvernement calédonien, Louis Mapou.
Pour le week-end à venir, le confinement strict avec attestation de déplacement est rétabli jusqu'au lundi matin à 5h10. Afin d'éviter tout débordement et de limiter les accidents, nous avons demandé au haut commissaire d'interdire la vente d'alcool dès aujourd'hui à 17h et pour toute la durée du week-end, hormis dans les commerces spécialisés. Nous ne voulons pas, par des excès dans les comportements, courir des risques d'une saturation beaucoup plus importante du service de réanimation de l'hôpital. Les mesures applicables depuis le 11 octobre sont donc maintenues en semaine. L'attestation de circulation n'est pas nécessaire en semaine. Le couvre-feu est maintenu tous les jours, à partir de 22h jusqu'à 5h.
Et puis autre annonce, après le milieu médical, ce sont les enseignants et le personnel des établissements scolaires de Nouvelle-Calédonie qui ont l'obligation de se faire vacciner avant la fin du mois.
Des hommages en France ce week-end, hommage notamment aux victimes de la répression sanglante du 17 octobre 1961 par des manifestants algériens. Pour la première fois, un président a rendu hommage à Colombes en région parisienne. Précision de Julien Chavanne pour RFI.
Emmanuel Macron voulait faire un pas de plus dans le devoir de mémoire, mais pour les associations et les historiens, le président français n'est pas allé assez loin. Les descendants de victimes demandaient la reconnaissance d'un crime d'État. Si Emmanuel Macron a bien reconnu que des crimes avaient été commis le 17 octobre 1961, il ne pointe qu'un seul responsable, Maurice Papon, le préfet de police de Paris. Un déni pour les associations qui dénonçaient le rôle du gouvernement à l'époque et du président de Gaulle. Pourquoi cette prudence de la part du chef de l'État ? L'histoire de la guerre d'Algérie a toujours été sensible en France, terrain inflammable en période de campagne présidentielle, sans compter le climat actuel de tension avec Alger. Le président français n'a d'ailleurs pas voulu en faire trop sur la forme de cette annonce. Une cérémonie sobre et un communiqué moins médiatique qu'un discours. Une politique des petits pas assumée par Emmanuel Macron. Le chef de l'État a choisi le ton long et la méthode douce pour réconcilier toutes les mémoires.
Page culture avec le cinéma et ce coup de projecteur sur Julie en 12 chapitres. C'est un film norvégien, comme nous l'explique Sophie Torlotin pour RFI.
Julie est une jeune femme bien de son temps. Au passage de la trentaine, cette brunette pétillante cherche encore sa voie professionnelle. Et son cœur balance entre son premier grand amour, un auteur de bande dessinée plus âgé qu'elle, et un barman jeune et séduisant. Le chef de file du cinéma norvégien, Joachim Trier, 47 ans, réussit un film à la fois mélancolique et très joyeux, sur une jeune femme forte et vulnérable à la fois. Le spectateur sera charmé par plusieurs séquences étonnantes. L'une réussit à rendre palpable l'envie qu'a Julie d'arrêter le temps après un coup de foudre.
Je voulais vraiment faire un film organique. Je voulais qu'on sente la vie. Effectivement, il y a cette scène où Julie rêve qu'elle peut arrêter le temps et s'enfuir avec Evin, qu'elle vient de rencontrer une soirée. Elle court dans les rues alors que la vie s'arrête. Et on a juste demandé aux figurants de ne pas bouger. On l'a tourné pendant le Covid. C'était dur, mais c'était très joyeux. Comme une fête de quartier, et j'ai adoré ça.
Portrait d'une trentenaire en pleine crise existentielle, Julie, en 12 chapitres, aborde les questions de différences générationnelles, de désir et de fidélité, et il révèle une comédienne formidable, Renate Reinsve, à qui le jury du Festival de Cannes a décerné le prix de la meilleure actrice.
On passe à la météo pour ce dimanche en Australie. À Perth, il fera 21 degrés. Adélaïde, 23. Melbourne, 19. Hobart, 17. Canberra, 19. Sydney, 22. Brisbane, 28. Cairns, 33. Darwin, 34. Et à Alice Springs, maximale de 35 degrés. un rappel des grands titres de ce dimanche 17 octobre. Le verrouillage de Melbourne se terminera 5 jours plus tôt avec une série de changements dans la feuille de route de réouverture du Victoria. Le dirigeant de la Nouvelle-Galles du Sud revient sur la décision de la suppression de la quarantaine pour les arrivées internationales à la demande du Premier ministre Scott Morrison. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Journal des sports de ce dimanche avec tout d'abord le foot, la Ligue 1 en France. Il y avait deux matchs hier. Lyon a battu Monaco 2-0. Simon Bourtembourg, Radio France Internationale.
Paris réussi pour Lucas Paqueta. Dans la nuit de jeudi à vendredi, il disputait un match avec la sélection brésilienne face à l'Uruguay. Et le voilà le samedi sur le terrain du Groupama Stadium pour affronter l'AS Monaco en Ligue 1. Si l'artiste brésilien avait manifesté son souhait de jouer, beaucoup criaient à l'hérésie. C'est pourtant sa montée au jeu à la 67e minute qui a complètement changé la physionomie du match alors que les Monégasques pressaient depuis la rentrée des vestiaires. Dès l'entrée en jeu de Lucas Paqueta, le stade vrombit et le Brésilien fait parler son talent et sa justesse technique. Comme un catalyseur de confiance, le milieu de terrain redynamise le jeu lyonnais. C'est d'abord grâce à un premier but sur pénalty que Carl Toko Ekambi met l'Olympique de Lyon dans le sens de la marche. Et puis c'est encore Lucas Paqueta qui, au départ de l'action sur le deuxième but, une délicieuse passe cachée pour Emerson et un centre vers Denayer qui conclut. Grâce à leur victoire 2-0, les Lyonnais doublent au classement leur adversaire du jour.
Et dans l'autre match, Clermont s'est imposé contre Lille 1-0. Les autres matchs se joueront ce dimanche, mais vendredi, le Paris Saint-Germain a battu Angers 2-1. Romain Thomas de Angers est déçu suite à un pénalty litigieux à la 87e minute pour les Parisiens. On l'écoute.
C'est incroyable ce qui se passe. Qu'on perde 2-1 à l'arrivée, perdre ici, c'est pas une honte. Mais comme ça, non, c'est impossible. Nous, on travaille toute la semaine pour faire quelque chose de propre. Je prends le temps d'aller lui expliquer, c'est anormal qu'ils prennent pas le temps, les arbitres. La VAR, ça commence à me fatiguer cette histoire-là, mettre des millions dans un truc qu'on sait même pas l'utiliser. Donc ça m'agace parce que je suis passionné, je suis dévoué, je fais attention à ce que je fais. Là, il y a faute au départ de l'action de Ricardi. Il me tire sur le bras, je tombe, mais après, il joue de sa position pour le penalty. De toute façon, c'est fini maintenant, Paris a ses 3 points. Mais je préfère en prendre 5 et qu'il nous fasse tourner dans le jeu que perdre 2-1 comme ça.
On passe en Angleterre avec quelques matchs hier avec Liverpool qui s'est imposé contre Watford 5-0. Manchester United 4e battu par Leicester 4-2. Manchester City à la 3e place s'est imposé contre Burnley 2-0. Et puis en Espagne, la Real Sociedad a battu Mallorca 1-0. En Allemagne, le Borussia Dortmund, premier désormais, s'est imposé contre Mayence 3-1. En Italie, l'AC Milan, premier, a battu hélas Vérone 3-2. Et l'Inter Milan, à la 3e place, battu par la Lazio Rome 3-1. On passe au foot en Afrique avec la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération. Thomas de Saint-Léger, RFI.
Sérieux et solide, les Mimos bien partis pour accéder à la phase de groupe après leur victoire 3-1 sur les Algériens de Belouizdad. La demi-surprise du jour nous vient de Niamey où l'US Gendarmerie a tenu en échec le tenant du titre à l'Ahly. Un partout, le rêve est permis, mais il faudra réussir un autre exploit la semaine prochaine en Égypte. L'autre géant Kérot, le Zamalek, s'en est mieux sorti qu'à l'Ahly en gagnant 1-0 chez les Kenyans de Tusker. 1-0 aussi pour le Oroya de Conakry sur le terrain du Stade Malien, a signalé enfin le nul un partout entre les Rwandais d'APR et l'Étoile du Sahel. En Coupe de la Confédération maintenant, scénario cruel pour les Sénégalais de Diambars, battus chez eux dans les dernières minutes par les Nigérians d'Enyimba, 1-0, but encaissé sur pénalty. Revers à la maison aussi pour les Mauritaniens de Concorde, dominés 2-1 par les Algériens de Saoura, 2-1. C'est aussi le score de la rencontre Orapa Coton Sport de Garoua, le club camerounais en danger donc, avant de recevoir au retour.
On passe au tennis, le tournoi Indian Wells en Californie avec les demi-finales. Eh bien, Dimitrov, le Bulgare, a été éliminé par Norri, le Britannique, en deux manches, 6-2, 6-4. Et tout à l'heure, Fritz, l'Américain, a été battu par Basil Lashvili, le Géorgien, en deux manches, 7-6, 6-3. La finale des messieurs donc demain. Pour les dames, la finale se disputera entre Azarenka la Biélorusse et Badosa l'Espagnole ce dimanche. Une première pour une Espagnole depuis 1996. À l'époque, c'était Conchita Martinez, Paula Badosa sur Bein Sports. On l'écoute.
I think I won two matches in my life in a 1000 tournament and now I'm in a final one year after. It's crazy. I still can't believe it. I think it's because I worked very hard. I never stopped believing. I passed through really tough times in my life, a depression, anxiety when I was very young, and now being in a final and having a dream come true like this, it's amazing.
Et puis à noter que la Tunisienne Once Jabeur a été éliminée en demi-finale, mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle sera 9e mondiale à partir de demain, lundi. On passe au Tour de France, oui, le parcours du Tour de France qui a été dévoilé jeudi pour les messieurs et les dames. Et on en a parlé longuement hier dans le Journal des Sports. Mais revenons brièvement avec ce Tour de France des dames, une première depuis 2009. On écoute Marion Rousse, la directrice de la course.
Le cyclisme féminin, il évolue hein, d'année en année. Il y a de nouvelles équipes, il y a du coup plus de médiatisation et forcément plus d'argent. Et des nouvelles courses, à l'image de Paris-Roubaix il y a quelques semaines, qui a été une vraie réussite. Donc on a envie de faire rentrer le cyclisme féminin dans le cœur des Français, que ce soit plus une nouveauté ou une surprise quand tu allumes la télé et que tu vois du cyclisme féminin.
Et maintenant, Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France.
Je voulais aussi évoquer le cyclisme féminin et son développement. ASO a été créé en 1992. Nous avons développé en Espagne, dans la Vuelta, une épreuve féminine de 4 jours et de bientôt 5 jours. Nous avons, vous le savez, lancé Liège-Bastogne-Liège et Paris-Roubaix, version féminine là encore, il y a un peu plus de 2 semaines. On peut bien sûr toujours aller plus vite, mais nous ne sommes pas restés les bras ballants.
Donc il y aura 8 étapes pour les filles. On écoute la réaction de Audrey Cordon Rageau.
En fait, j'ai l'impression d'ouvrir un deuxième chapitre aujourd'hui. On a eu un premier chapitre Paris-Roubaix qui s'est fort bien déroulé. Et là, on a le deuxième chapitre Tour de France. C'est vraiment une étape de plus. On n'est qu'à l'amorce de ce qui va se passer pour le cyclisme féminin, pour le sport féminin en général, parce que là, on parle de vélo, mais c'est ce qui se passe dans beaucoup de sports aujourd'hui versus féminin. Enfin, on peut vivre de notre sport. Enfin, on peut être reconnu à notre juste valeur. C'est quelque chose qui était inespéré il y a encore 5 ans de ça. Donc, c'est énorme.
Et enfin, la réaction du prince Frédéric du Danemark, où le Tour de France de 2022 débutera.
Notre pays accueille pour la première fois le grand départ du Tour de France. Des centaines de milliers de spectateurs se rendent au rendez-vous pour le coup d'envoi de la grande boucle le 1er juillet à Copenhague. Les Danois pourront bénéficier du spectacle incroyable de la plus belle course cycliste du monde.
Cyclisme toujours, et comme vous le savez peut-être déjà, le Rwanda va accueillir les championnats du monde de 2025. Thomas de Saint-Léger, Radio France Internationale.
De la ferveur, un parcours très exigeant, des paysages spectaculaires, la recette a fait le succès et la réputation du Tour du Rwanda. Alors ce championnat du monde au pays des mille collines, le peloton international s'y voit déjà. Plus, ce sont bien sûr les Rwandais, le directeur sportif de l'équipe nationale, Félix Saint-Poma.
Imaginez des champions du monde, des champions du Tour de France, les grands nations en cyclisme comme la France et l'Italie. Ils viennent au Rwanda pour faire le championnat du monde. C'est une grande chose. Là, en tout cas, je m'imagine comme un meilleur moment du cyclisme rwandais.
Et alors, les jeunes qui sont là pour les espoirs, pour les juniors, ils auront dans 4 ans l'âge de, peut-être être de faire la course des grands, etc. Est-ce que vous voyez déjà la petite lumière qui brille dans leurs yeux?
Après l'annonce de cette bonne chose, il y a beaucoup de gens, beaucoup de garçons, les juniors, même ceux qui n'ont pas encore fait du 15, 16 ans, qui sont là juniors à ce moment-là. Ils sont excités de participer à ce championnat. Et c'est pour cela qu'on voit que dans leurs yeux qu'ils sont très motivés. Quand tu vois qu'il y a une grande chose qui va se préparer dans ton pays, tu dois en préparer de conséquences. C'est-à-dire que même les clubs, ils vont y mettre beaucoup de travail. C'est un devoir qui sont devant nous qu'on doit faire. C'est pas y participer seulement, mais gagner aussi des médailles.
Ne pas faire de la figuration, être acteur, actrice de l'événement, ce sera dans 4 ans l'un des grands défis des Rwandais et des Africains en général.
Et puis le Grand Prix de Formule 1 d'Australie aura lieu le 10 avril en 2022. Ce sera la troisième course de la saison et non pas la première course comme d'habitude. Voilà pour le Journal des Sports de ce dimanche.
Vos conversations. SBS French.
Le plaisir d'avoir Jérôme Carougeau, qui est le nouveau directeur de l'Alliance française de Brisbane. Bonjour à vous et bienvenue au Queensland, en Australie.
Merci beaucoup. Donc, plaisir partagé d'avoir cette discussion.
Et bienvenue aussi sur les ondes SBS French. Peut-être, Jérôme, présentez-vous, racontez votre parcours professionnel au sein des Alliances françaises.
Alors, toute ma carrière, je l'ai faite autour de la promotion et de l'enseignement de la langue française parce que j'ai commencé en étant assistant de français en Angleterre, puis lecteur de français dans une université aux États-Unis. Je suis revenu en France pour des études donc de français langue étrangère. Je suis reparti en Angleterre, puis en Corée du Sud, avant de revenir me spécialiser sur l'enseignement des langues par le multimédia. Et j'ai rejoint les équipes de TV5 Monde autour du dispositif Apprendre à enseigner avec TV5 Monde, donc la chaîne internationale qui propose énormément de ressources pour les professeurs de français et également les enseignants les apprenants de français avec des exercices en ligne. Donc j'ai travaillé là-bas pendant 9 ans sur différents projets autour de l'actualité avec 7 jours sur la planète, autour de certification en français. Des entraînements de PCF, des nouvelles fiches pédagogiques, etc. Et je voulais revenir vers des choses, des problématiques plus concrètes, plus proches du terrain. Et donc, j'ai rejoint l'ambassade de France au Laos en tant qu'attaché de coopération éducative. Pendant 3 années, j'ai également été en Corée du Sud où là j'ai rejoint le comité de gestion du lycée français de Séoul. Et puis je suis revenu de nouveau en France où j'ai travaillé à l'Institut français de Paris au pôle langue française, donc sur toutes les questions de numérique éducatif. Et quelques mois après ma prise de poste, il y a la crise du Covid qui est arrivée et forcément les questions de numérique éducatif ont pris une ampleur tout à fait exceptionnelle. Je me rappelle quand j'étais arrivé à l'Institut français, on m'avait dit la mission c'est essayer de convaincre les alliances françaises du réseau, les instituts français de commencer à proposer des cours en ligne. Et quelques mois plus tard, c'était mission réussie. Pour ça, toutes les alliances et tous les instituts français du réseau étaient passés et avaient proposé des cours en ligne. Je ne suis pas sûr que c'était mon travail qui était 100% à l'origine de cette transition, mais elle s'est faite. Et puis surtout, il a fallu accompagner tous ces établissements-là. Ça a posé beaucoup, beaucoup de questions. On a mis en place des webinaires pour les accompagner. C'était une période qui était très intense. Il y a eu beaucoup de questions qui sont posées, d'accompagnement à faire, de solutions à trouver, qui émergeaient du réseau. C'était vraiment passionnant. Et puis on m'a proposé donc de rejoindre l'Alliance française de Brisbane. Et c'est une affectation qui m'a beaucoup séduit parce que c'est une alliance à taille humaine dans une ville qui est très agréable où il y a beaucoup de choses à faire avec une équipe sur place qui est vraiment exceptionnelle. Et j'ai eu cette envie de revenir et puis de mettre en pratique un petit peu les conseils que je pouvais prodiguer quand j'étais à Paris et que je travaillais avec les alliances.
Et donc là, vous êtes nouvellement installé à Brisbane. Quelles sont un petit peu les premières impressions de ces locaux de l'Alliance française à West End?
Oui, c'est ça. On a des locaux à West End, qui est un quartier qui est vraiment très, très agréable, très bien situé. Et on a des locaux qui sont très modernes. Et là aussi, enfin, on a vraiment quelque chose qui est très intéressant pour accueillir le public dans de très bonnes conditions. Et pour leur proposer des cours, mais également des ateliers et des soirées culturelles. On va être très content de ces locaux et de cet emplacement. Et on va réfléchir à ce qu'on peut proposer d'autre et de s'appuyer encore plus sur cet emplacement et sur des partenariats avec des institutions culturelles, éducatives, parce que il y a beaucoup de choses qui se passent à Brisbane. Et donc beaucoup de partenaires avec lesquels on pourrait travailler.
Et j'imagine que les cours marchent très bien. Dans le Queensland, il n'y a pas eu vraiment de restrictions sanitaires pendant les 18 derniers mois, je crois.
Alors, il n'y a pas eu beaucoup de restrictions sanitaires, c'est vrai, mais il y avait quand même cette peur que des restrictions arrivent. Ouais. Il y a eu donc des lockdowns période très courte, mais du coup, je pense que ça pesait un petit peu dans l'esprit des gens et que ils étaient moins prêts à s'engager dans des cours sur une session de cours d'une dizaine de semaines parce qu'il y avait cette crainte que ça puisse fermer. Donc l'année 2020, c'était une année un petit peu spéciale avec des inscriptions qui étaient en baisse. Et en fait, pour cette année, pour 2021, notre année de référence est 2019. Clairement, on trouve qu'il n'y a pas vraiment de raison de comparer avec 2020. Donc, on compare avec 2019. On avait des projections qui, en se basant sur 2019, on se disait on va peut-être remplir 80% des classes par rapport à ce qu'on faisait il y a deux ans. Et là, en fait, la quatrième session cours s'est lancée la semaine dernière et en fait, on retrouve les inscriptions de 2019. On a même fait un petit peu mieux que 2019. Donc ça, c'est quelque chose qui est très positif et on espère pouvoir continuer sur cette lancée-là.
Et est-ce que vous gardez toujours la possibilité d'enseigner en ligne s'il y a un lockdown à l'avenir?
Oui, alors donc il y a des cours qui sont passés en ligne. Quand il y a eu le premier lockdown, tous les cours étaient passés en ligne. Donc il y a ce savoir-faire qui est là, qui est acquis, sur lequel on peut s'appuyer. Mais ce qu'on a noté, c'est que les gens souhaitent revenir majoritairement à l'Alliance, dans les locaux, avoir cette dimension sociale.
Oui.
Des cours de français, de retrouver leurs amis. Et si on continue à offrir quelques cours sur Zoom, finalement c'est vraiment très peu. Donc si jamais on devait repasser sur Zoom, on sait qu'on peut le faire. Là, on voit plutôt ce qu'on peut offrir de manière conviviale dans les locaux de la Ligue.
On profite de votre passage à l'antenne pour peut-être parler des événements culturels pour les mois à venir. Le lundi 11 octobre, il y a eu, par exemple, une projection de film dans le cadre du Ciné-Club.
Voilà. Alors, on continue à proposer un Ciné-Club. Donc hier, c'était dans le cadre de la semaine du film d'animation. Donc c'était Josep, un film d'animation. Et ce qu'on lance, donc ça va être à la fin du mois, ce sont des séances avec un expert qui va venir, qui va présenter le film, le contexte, et puis après qui va mener une discussion aussi avec l'audience autour du film. Le film que l'on va diffuser, c'est Z, avec Yves Montand, parce que c'est le centenaire de sa naissance.
Ouais.
C'est un très très beau film, Z de Costa Gavras. C'est un film qui va aussi vraiment bénéficier d'avoir cette présentation, cette remise en contexte, parce que peut-être que la période des dictatures militaires en Grèce, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu lointain vu l'Australie, même si on a une très grande communauté grecque à West End. Mais on est très content de pouvoir proposer ça parce que ça apporte un vrai plus à nos membres d'avoir ce moment d'échange. Donc on va lancer ça dans le cadre du Ciné-Club. On va voir comment ça fonctionne. Pour l'instant, c'est déjà un beau succès vu qu'on a deux fois plus d'inscrits à cette séance-là que l'on en a habituellement pour nos Ciné-Clubs. Et on va réfléchir comment on peut développer ça encore plus.
Et vous avez aussi un book club, le club de lecture qui arrive dans les prochains jours.
Oui, ça c'est quelque chose de régulier qui est proposé aux membres de l'Alliance, qui est très apprécié. On a ce book club. J'ai aussi découvert avec grand plaisir, en fait, la semaine de mon arrivée dans les locaux de l'Alliance, un club de conversation qui regroupait une vingtaine de personnes de tous niveaux. Et c'était vraiment très très agréable de voir ça, un moment très convivial où les gens viennent, se retrouvent autour d'un verre de vin, de fromage qu'ils amènent. J'ai hâte de pouvoir participer avec eux à ce moment-là.
Et autre événement peut-être à signaler avec les fêtes de Noël qui s'approchent?
Alors, avec les fêtes de Noël, on tenait un marché français que l'on avait fait l'année dernière, on avait continué à le faire dans les locaux. Donc on va voir comment on peut continuer à mettre en valeur des produits français qui sont sur place. On a une communauté francophone qui propose beaucoup de choses. J'étais samedi au marché de West End et j'ai vu qu'il y avait des producteurs français qui font leur saucisson sec en Australie, leur fromage de chèvre, leur beurre. C'était vraiment très très agréable de voir ça, une belle surprise. Et donc on essaye forcément de pouvoir mettre en valeur ce qu'eux font, mais il y a beaucoup d'autres entrepreneurs français qui proposent des choses et on essaye de les soutenir.
Et j'imagine aussi que vous êtes en pleine préparation de l'Alliance française French Film Festival de 2022.
Oui, c'est ça, oui. Donc 2022, on est très content de pouvoir continuer. On a eu une très belle édition l'année dernière avec vraiment beaucoup d'entrées. C'était l'événement culturel majeur qu'on pouvait relancer à ce moment-là. Et donc on va continuer sur cette lancée. Il va se tenir à Brisbane de mi-mars à mi-avril. Il y a la sélection de films, elle est pas encore définitive, elle est encore secrète également, mais ça va être une très belle sélection de films, donc on est très très enthousiaste à l'idée de pouvoir poursuivre sur ce festival. C'est le plus grand festival de films français au monde, hors de France. C'est quelque chose dont on peut être fier en Australie et je pense que c'est le signe du travail en réseau des alliances françaises ici. C'est un vrai travail d'équipe et c'est vraiment, vraiment très agréable de pouvoir travailler avec tous les collègues des autres alliances d'Australie.
Et donc, il faut garder l'œil sur afbrisbane.com.
C'est ça.
Merci Jérôme d'être intervenu sur les ondes de Radio SBS et à très bientôt.
Oui, c'était un plaisir. Merci de cette invitation.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Nous nous attardons à présent, comme chaque dimanche, sur un personnage en lien avec l'actualité. Pour nous en parler, nous sommes en ligne avec Émile Matassou. Bonjour à vous, Émile.
Bonjour, Jean-Noël. Bonjour à tous.
Coup de projecteur aujourd'hui sur Robert Durst.
Le multimillionnaire américain Robert Durst, oui, âgé de 78 ans, il vient d'être condamné à la prison à perpétuité. Robert Durst, accusé d'avoir tué son ami, sa meilleure amie, en 2000, il y a plus de 20 ans. Alors en soi, il s'agit d'une affaire judiciaire parmi tant d'autres, mais elle passionne l'Amérique depuis des décennies. Cette affaire, une sorte de saga digne d'un incroyable feuilleton télé, car on va le voir, Robert Durst, ça n'est pas n'importe qui, il fait partie d'une richissime famille, et surtout, il est soupçonné d'autres meurtres, notamment celui de sa femme, bien plus loin encore, en 1982. Le tribunal de Los Angeles l'a condamné en tout cas ce jeudi 14 octobre à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, pour le meurtre de Suzanne Berman, son amie retrouvée morte d'une balle dans la tête en décembre 2000. Le tribunal estime qu'il l'a tuée parce qu'elle s'apprêtait à répondre aux policiers new-yorkais qui enquêtaient sur la disparition de la femme de Robert Durst en 1982. Son corps, celui de sa femme, Kathleen, n'a jamais été retrouvé. Et la justice a de bonnes raisons de penser qu'à l'époque, en 2000, Suzanne Berman, meilleure amie de Robert Durst, savait des choses, qu'elle ait ou non aidé directement à cacher la vérité. Elle a été assassinée. Elle aussi, Robert Durst, était en première ligne, soupçonné de cet assassinat. Ce crime, celui de Suzanne Berman en 2000, c'est un meurtre de témoin, acclamé à l'audience le juge, qui a conclu qu'il y avait des preuves suffisantes, en fait accablantes, a-t-il dit, de culpabilité. La défense qui réclamait un nouveau procès, eh bien, demande rejetée par le tribunal. Durant ce procès, l'entourage, les proches de Suzanne Berman ont ouvertement exhorté l'accusé, Robert Durst, à dire où il avait dissimulé le corps de son épouse en 1982. Kathleen, Robert Durst n'a rien lâché durant ce procès.
Pour bien comprendre cette saga, tout a été relancé par des propos que Robert Durst a tenus en 2015 dans un documentaire.
Oui, un documentaire télé pour la chaîne HBO, une autobiographie de Robert Durst, où il apparaissait jouant son propre rôle et où on l'entend dire « Qu'est-ce que j'ai fait ? Je les ai tous tués, évidemment. » Ces quelques mots, Robert Durst les a tenus alors qu'il était aux toilettes pendant le tournage de ce documentaire et qu'il pensait visiblement que son micro-cravate, son micro-HF avait été désactivé ou alors avait-il oublié qu'il portait un micro. En tout cas, Robert Durst a prononcé cette phrase « Je les ai tous tués, évidemment ». Il était traqué par la justice depuis 1982, la disparition de sa femme, et il a eu le tort de penser qu'il s'en sortirait toujours. Avant de tourner ce documentaire, qui est sorti en 2015, alors que ses proches, ses avocats cherchaient à l'en dissuader, hein, se doutant sans doute, avant même ses aveux, ce lapsus, cette phrase « je les ai tous tués », évidemment, ses avocats se doutaient que ce documentaire allait remuer son passé sulfureux, eh bien, l'intéressé avait asséné dans une interview à propos de la justice « cela fait si longtemps », à propos de la disparition de sa femme, « cela fait si longtemps », et à propos également de l'assassinat de sa meilleure amie, « cela fait si longtemps, il faudrait qu'un procureur entreprenne une enquête considérable et ruineuse, je ne l'imagine pas ». Eh bien, la justice américaine l'a pris au mot. En mars 2015, il a été arrêté la veille de la diffusion du dernier des 6 épisodes du documentaire. Et lorsqu'il a été arrêté dans un hôtel, il avait un nom d'emprunt, il avait de faux papiers, beaucoup d'argent en liquide sur lui, quelques 40 000 dollars. La police a estimé qu'il se préparait tout simplement, Robert Durst, à ce moment-là, a quitté le territoire américain, a quitté les États-Unis. Alors nous avons parlé de la disparition de sa femme en 1982, disparition de la maison de campagne du couple, hein, Robert Dust n'avait prévenu la police qu'au bout de 6 jours. Nous avons parlé de son ami retrouvé, une balle dans la tête, en 2000. Il y a aussi le meurtre de son voisin en 2003. Il l'a tué, il l'a démembré et l'a jeté les restes du corps à la mer. Et quand on vous dit que son histoire est assez incroyable et digne des scénarios TV les plus scabreux, Robert Dust a réussi à être acquitté pour ce meurtre-là, celui de son voisin, à coups de dizaines de milliers de dollars, avec l'appui d'une armée d'avocats. Il a été acquitté de ce meurtre, plaidant la légitime défense, un coup de feu involontaire, hein, le coup de feu qu'il a tiré, le tout sous l'emprise de l'alcool. Mais là, cette fois, 2021, il n'a pas trouvé la parade. Il vient d'être condamné à la prison à perpétuité.
Qui est Robert Dust au-delà de ses affaires judiciaires ?
Robert Dust est l'un des 4 enfants de Seymour Dust, décédé en 1995, et de Bernice Erstein, qui, elle, s'est suicidée alors que ses enfants étaient très jeunes, en 1950. Robert Dust, qui est l'aîné des 4 enfants, n'avait alors que 7 ans à la mort de sa mère. Il a grandi sans elle, comme ses frères et sœurs. Il a grandi en voyant son père faire fortune dans l'immobilier. Investisseur, promoteur immobilier, son père, Seymour Dust, mais aussi philanthrope. On l'a dit, Robert Dust est l'aîné. À ce titre, la logique aurait voulu qu'il hérite de l'empire immobilier laissé par son père, mais ce dernier lui a préféré son frère cadet, Douglas, ce qui a généré d'énormes tensions entre les deux. Robert Dust s'est marié à Kathleen McCormack en 1971, un mariage tumultueux, des disputes, des violences, une procédure de divorce, jusqu'à la disparition de son épouse. En 1982, le corps n'a jamais été retrouvé. Robert Dust, qui a une fortune estimée à 75 millions de dollars, il n'a jamais réussi à être à la hauteur de la dynastie, de l'empire, construit, légué par son père. Disparition, meurtre, les Américains depuis 40 ans suivent sa destinée à travers les chroniques des faits divers et chroniques judiciaires. Et indépendamment du documentaire dont nous parlions tout à l'heure, des livres, des films ont été tournés en référence à son histoire. Chaque pays a ainsi ses histoires, ses faits divers qui peuvent s'étendre sur plusieurs générations. L'affaire Robert Dust fait partie de ces affaires-là aux États-Unis. Toutes les zones d'ombre n'ont pas été élucidées. Il n'est jamais passé publiquement aux aveux. Mais la justice américaine l'a bel et bien condamné, in fine, à la prison à perpétuité.
Merci Émile pour ce coup de projecteur sur le personnage de ce dimanche. Vous écoutez Radio SBS, le programme en français. Fin d'émission, un rappel des grands titres de ce dimanche 17 octobre. Le verrouillage de Melbourne se terminera 5 jours plus tôt que prévu avec une série de changements dans la feuille de route de réouverture du Victoria. Le dirigeant de la Nouvelle-Galles du Sud revient sur la décision de la suppression de la quarantaine pour les arrivées internationales à la demande du Premier ministre Scott Morrison. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous, c'est mardi à partir de 13h. Et vous écoutez en ce moment Pauline Croz, Je suis un renard. À très bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.